Tout d'abord, des lectures prises dans l'Ancien Testament, surtout des lectures du Pentateuque. D'abord, en Exode 12, au verset 8, c'est même lui, on en mangera la chair de l'agneau, rôti au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. En Exode 12, au verset 15, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier au septième jour sera retranchée d'Israël. C'est toujours en Exode 12, les versets 33 et 34. Après la nuit où l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, les Égyptiens pressent les Israélites de partir et le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Et puis maintenant, dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, verset 6, le 15e jour du mois sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Et puis je reprends toujours dans les épîtres de Paul, en 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car votre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi célébrons la fête, non pas avec des vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Et puis, nous prenons aussi en Matthieu, au chapitre 13, le verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à la pâte soit toute levée. Connaissez-vous l'histoire du verre rempli à mi-hauteur? Le pessimiste répond, il est à moitié vide. La négativité a besoin d'être entendue, acceptée et comprise. Elle peut être une réaction à un événement de la vie, elle peut être du stress, de l'anxiété, des reproches subis et bien d'autres événements. Lorsque cet état se maintient, les personnes négatives reste dans la souffrance, la rumination, la frustration et la plainte. L'optimiste répond, il est à moitié plein. D'autres, au contraire, ont une vision positive de la vie. Ils sont en confiance en eux et une bonne estime d'eux-mêmes. Ils peuvent avoir également des passages moins positifs, mais ils prennent les choses avec plus de recul et moins de souffrance. Ils ont une capacité de résilience que les autres n'ont pas. Ils osent réagir pour retrouver une vie agréable. L'ingénieur répond, le verre est 2 fois plus grand que nécessaire. La soifée répond, il n'est pas assez plein. Le scientifique répond, techniquement, il est toujours plein, à demi-plein d'air et à demi-plein d'air. devenu plein de liquide. Le philosophe répond, qu'est-ce que le verre? Donc tout dépend du point de vue que l'on choisit. Du côté du liquide, il est plein de liquide, il est vide d'air. Du côté de l'air, il est plein d'air, mais vide de liquide. Donc, le verre est à la fois plein et à la fois vide. Alors, mettre du levain, l'enfouir dans la farine pour que toute la pâte lève. Voilà la parole que Jésus nous adresse ce matin. Et quel rapport, me direz-vous, avec la parabole du levain caché dans la farine et l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein? Ben, la vérité, c'est que il y a eu deux grandes interprétations de cette parabole, une complètement négative et une complètement positive. J'y viendrai tout à l'heure. Le premier levain, dans cet évangile de Matthieu, les paraboles du chapitre 13, celle qui précède et puis les deux qui suivent, elles viennent nous dire le mystère du royaume de Dieu. Et parmi ces paraboles, Jésus n'a expliqué, cité que deux à ses disciples, celle du semeur et puis celle de la semence est livrée. Donc il faut que le jour, on écoute les autres, comme on peut, mais surtout avec notre cœur. Et chaque parabole semble avoir sa signification propre. Et à travers ces paraboles, Jésus ne cache pas que ces paroles seront plus ou moins bien reçues par les hommes, ni que le bien et le mal cohabitent dans notre monde. Et c'est sans doute là que réside le mystère de Dieu, dans la confrontation avec le mal que le royaume vient faire son chemin. Alors si certaines images paraissent plus spécifiquement caractérisées, soit le bien, la bonne semence c'est le bien, livré c'est le mal, l'image du levain, elle est bien plus ambiguë. Et c'est pour ça qu'on a ces deux interprétations complètement opposées. Mais est-ce qu'il faut considérer que c'est ou mal ou bien, ou est-ce qu'il ne faut pas considérer que ben, ça ne s'exclut pas mutuellement? Peut-être qu'il y a un chemin entre les deux. Donc avant les interprétations, je vais vous quand même donner quelques interprétations, enfin quelques informations. Autrefois, on faisait le pain d'une manière fort simple. D'abord que l'eau de la farine et peut-être du sel. Alors les pains, ils étaient plats et minces. Et c'est peut-être ainsi que Sarah a préparé le pain que Abraham lui dit de préparer pour les trois envoyés. Après, il est très difficile de dater très exactement la découverte de l'origine du levain. L'origine la plus fréquemment citée est celle de l'Égypte. Et elle serait due simplement à une erreur de manipulation de la personne qui a fabriqué le pain. Elle aurait laissé le mélange d'eau et de farine fermenter et puis elle aurait rajouté de l'eau et de la farine. Donc, il faut bien voir que le levain, en fin de compte, il n'est utile que si, et seulement si, il est incorporé à de la farine et de l'eau pour que ça devienne une pâte. Parce que si on ne l'utilise pas, eh ben, il continue de fermenter, il sent mauvais, et il devient impropre à la consommation. Alors au début, quand on met un peu de levain dans la pâte, bah on ne voit rien. Il ne se passe rien. On a l'impression qu'il se passe rien. Parce qu'il faut laisser du temps. C'est très progressif. Et au fur et à mesure, la pâte va gonfler, elle va s'aérer, on va devenir plus légère. Donc on va obtenir les pains que nous connaissons aujourd'hui. Donc le levain, c'est quelque chose qui cache en soi une dynamique. Il permet la transformation des ingrédients en une pâte qui évolue complètement différente que celle que l'on aurait obtenue s'il n'y avait pas eu le vin. Alors là, maintenant, je vais dire des choses. J'espère que des personnes comme Alain pourront vérifier. La majeure des versets bibliques de l'Ancien Testament où figure le nouveau, le mot levain, non seulement se trouve dans les premiers livres, plus particulièrement avec la Pâque juive, et concerne aussi beaucoup d'ordonnances concernant les sacrifices. Donc vous voyez ça non seulement dans les chapitres, enfin les quelques versets que je vous ai dit de l'Exode, qui relate l'institution de la Pâque juive. On retrouve ça aussi dans les chapitres du Lévitique, on retrouve ça dans le Deutéronome. Et bien souvent, le levain était absent des sacrifices et des offrandes. Mais il y avait quand même des pains avec du levain dans les sacrifices de communion. Pas les plus fréquents, mais il y a quand même des sacrifices avec. Et dans les textes de l'Ancien Testament, à côté de ce mot levain, je n'ai trouvé aucune annotation directe et explicite du levain comme symbolisant le péché. Toutefois, compte tenu que les pains sans levain sont prescrits essentiellement dans un contexte religieux pour obéir aux ordonnances de Dieu et dans des rituels de sacrifice, on peut considérer que ce qu'on offre à Dieu, ce doit être pur et sans altération, et donc de point de vue spirituel, sans péché. Ainsi, le pain sans levain est associé à la sainteté de Dieu et à l'obéissance. Alors après, on peut dire, mais comme l'origine du pain est bien située le plus souvent comme l'Égypte, manger des pains sans levain, c'est peut-être aussi pour mieux rompre de façon définitive à tout ce qui peut rappeler l'Égypte aux Hébreux quand ils sont sortis d'Égypte. Et donc, différencier ce peuple hébreu comme étant un peuple mis à part. Tout ce qui vient de l'Égypte, et on oublie. On oublie ses dieux, on oublie ses rituels, on oublie tout. Et pour toutes les générations suivantes, célébrer la Pâque, c'est en faire son tour dans cette alliance, c'est vivre d'une manière nouvelle, se débarrasser des vieux ferments, être libéré de toute chaîne. Tout ce qui nous rend esclaves, allez, on l'a libéré. C'est faire mémoire, c'est vivre de l'œuvre libératrice et à la fable de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, en Matthieu 26, on nous dit que Jésus et ses disciples ont célébré la fête des pains sans levain. Et dans cette parabole que je viens de vous lire, là, en Matthieu chapitre 13, en toute rigueur, dans le texte, il n'y a pas de qualificatif de ce levain. Contrairement à d'autres textes où Jésus va dénoncer le levain des pharisiens, le levain des sadducéens, le levain des rois, et là, tous après, on nous dit c'est de l'hypocrisie, c'est tout expliqué. Mais pas dans cette parabole. Dans cette parabole-là, on nous parle du levain sans connotation. Parce que Jésus explique bien que le levain des pharisiens, des sadducéens et des sadducéens, il faut s'en méfier. Ce n'est pas quelque chose de correct. Évidemment, Jésus, il parle de manière symbolique. Et en dehors des évangiles, ben on trouve le levain comme symbole spirituel dans les lettres de Paul, les textes que je vous ai déjà lus. Et Paul était juif. Et donc, il connaissait parfaitement le sens des interprétations de son peuple. Et on peut donc considérer que s'il explique le sens du levain dans ses écrits, c'est aussi parce qu'il s'adresse parfois à des personnes d'origine non juive. C'est ça pourquoi il aurait explicité et pourquoi il aurait pris cette image. Donc voilà, ça c'est une quelques informations que je voulais vous donner dans votre tête avant d'écouter les premières interprétations. Donc la première interprétation, c'est le levain comme image du péché. Et donc la documentation, elle est essentiellement basée sur la signification du mot levain qui peut être déduite des textes de la Bible. Donc, quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, leur Pâque n'avait pas le temps de lever. Donc, allez, tout ce qui vient d'Égypte, non plus. Puis manger des pains sans levain, c'est quand même recevoir une substance altérée, parce que le levain, il a fermenté. Donc c'est une nourriture corrompue. Et par suite logique, le levain ben, représente le péché. Et puis ce levain, ben, au point de vue spirituel, il fermente, il contamine les hommes. On ne peut pas dire qu'on est sans péché. Le deuxième argument, ben, ce sont les écrits de Paul, parce que dans les écrits de Paul, le levain il a toujours une signification négative. Le levain de la perversité, du vice, que sais-je. Le troisième argument, ce sont les mises en garde de Jésus contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Donc, dans tous les textes, je vais les citer, en dehors de cette parabole, le levain est considéré de façon négative. Donc, il semblerait logique de comprendre le levain comme le mal et le péché. Et puis enfin, pourquoi cette parabole, elle serait le seul verset biblique où le levain aurait une connotation positive. Mais voilà, c'est que la comparaison de Jésus, d'abord elle parle du royaume de Dieu, et puis elle ne s'arrête pas au mot levain. Il faudra considérer toute la deuxième partie de la comparaison. A du levain qu'une femme a introduit dans la farine pour que toute la pâte lève. Donc, à partir de là, il y a plusieurs personnes qui ont considéré que cette parabole vient nous dire que c'est l'influence mauvaise du monde à l'intérieur de l'Église. Vous seriez, moi d'ailleurs, nous serions la pâte et nous avons été contaminés par le monde extérieur. Et le monde extérieur, c'est le mauvais levain. Dès lors, on est amené à dire qu'il faut prendre cette parabole comme une mise en garde contre tous les mauvais levains. Et surtout les levains spirituels, la vertu du cœur, la crédulité, le manque de foi. Vous pouvez en trouver autant que vous. Et puis la deuxième interprétation, ben c'est le levain comme image du développement de la venue du règne de Dieu. Alors cette interprétation, elle tente de prendre en compte le contexte et pas seulement le mot levain. Elle se situe dans un ensemble de paraboles qui nous parlent du royaume de Dieu. On ne va pas dire que le royaume de Dieu, c'est mal. Donc, on se dit, en prenant le contexte, déjà on peut se poser des questions. Et puis Jésus, dans ses différentes paraboles, il exprime différentes nuances du royaume de Dieu. Il ne s'est pas contenté d'une seule définition bien nette, bien claire, comme si c'était mathématique, en disant c'est comme ça et pas autrement. Et s'il ne s'est pas contenté d'une seule définition, c'est pour qu'il veuille parce qu'il veut nous conduire à une ouverture de cœur et pas nous enfermer dans quelque chose de rigide. D'ailleurs, si on prend le parabole des fêtes, on va vous dire que le royaume, c'est une manière de recevoir la parole, de la chercher, de la garder, d'en vivre, de la propager autour de nous. Et en Luc, Jésus nous dit, le royaume est au-dedans de vous, il est au milieu de nous. Alors après, dans l'argumentation de ceux qui prennent sa carrière de l'éducation, c'est que comme les deux paraboles de la graine de Buddha, elles prêtent juste celle qui prête le vin, elles se suivent. Des commentateurs la lisent et interprètent ces deux paraboles ensemble. Mais en faisant, comme la première est beaucoup plus explicite, vous savez, c'est celle de la parabole où la graine monte, devient un arbre, mais il y a les oiseaux qui viennent se nicher dans les oranges d'arbre. Étant donné que la première est beaucoup plus explicite, pourquoi commenter cette deuxième? Donc, selon ce point de vue, les uns y voient la croissance spirituelle et pensent que la parabole du levain, elle vient accentuer la parabole suivante, mais malgré tout, elle dit quelque chose en plus. Parce que le levain, il est caché, il échappe à l'observation. Et la parole de Dieu, elle agit lentement. Et son action, eh bien, elle échappe aussi à l'intervention de beaucoup. Il faut vraiment y prêter attention pour le voir. Donc, c'est une manière de dire que la parole de Dieu s'étendra au monde entier grâce à l'annonce de ses disciples. Et donc, l'œuvre de Dieu grandira. S'épanouira et transformera toute l'humanité. Et donc, dans cette deuxième interprétation, le levain est porteur d'un caractère positif qui fait grandir la vie spirituelle sur toute la terre. Moyennant l'avance de l'évangile. Donc, en boulangerie, le levain, il de toujours est considéré comme indispensable pour obtenir un pain beau, bon, levé, qui a une bonne odeur quand il est bien chaud. Mais comme je vous dis, si on laisse sans s'en servir, c'est une case. Donc, vous voyez, il y a un double symbolisme sur le levain. Une toute petite chose qui peut être bonne ou qui peut être mauvaise, mais qui de toute façon pénètre tout son environnement. Et consciemment ou non d'ailleurs, nous renvoyons autour de nous notre manière de vivre, en bien ou en mal. Qui d'entre nous n'a pas été influencé par la façon d'agir d'une personne, soit en bien, soit en mal? Donc notre quotidien, il demeure contradictoire, ambigu, parfois douloureux, un mélange de temps joyeux, de temps triste, de lumière, de ténèbres, de certitude, d'inquiétude. Et puis alors en plus, c'est que depuis plusieurs générations, les points de repère qui proviennent des générations précédentes, on n'en tient même plus compte. Ça s'efface. Les valeurs de la société, elles évoluent, se transforment. Notre monde, il est de plus en plus occupé par des préoccupations financières, techniques, de rendement et tout, au détriment de la vie, des conditions de vie. Et la pandémie, elle vient bien aggraver les conditions de vie. Hein. Le ressenti, pour beaucoup, d'une existence sans attrait, sans épanouissement, sans avenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors pour beaucoup, trouver son unité intérieure et essayer de vivre de manière agréable devient difficile. Ne serait-il pas salutaire de se laisser porter par le souffle du Saint-Esprit? Donc en conjuguant ensemble les deux principales interprétations de cette parabole, on voit donc d'une part qu'elle nous invite à rejeter toutes les doctrines qui viennent altérer la parole de Dieu. Et de nous faire de tous les mauvais levains qui viennent pourrir nos vies. Parce que est-ce que dans nos existences, on n'est pas le levain des mauvaises histoires? Le ferment des divisions? Comme une sorte de terreau sur lequel croissent toutes les mauvaises idées qui cherche à empoisonner notre cœur. Ça, c'est le symbole de la folie. Mais en même temps, elle nous invite à faire attention à notre vie et à notre vie spirituelle. Et à mettre Dieu et notre relation à Dieu au centre de nos préoccupations. Afin que notre vie, elle prenne de l'épaisseur, de la consistance, de la profondeur, et que nous ayons vraiment le coup de nos vies épanouies. Lorsque nous accueillons la parole de Dieu, lorsque nous lui laissons une place, lorsque nous le laissons s'épanouir au plus profond de notre être, ben notre existence, elle se transforme peu à peu. Alors il y a des gens qui se sont convertis du jour au lendemain, il y a des personnes pour qui ça prend des années. Ça se fait petit à petit. Et lorsque nous acceptons la relation à Dieu vécue dans l'intimité de la prière, notre vie quotidienne est illuminée. Et la qualité de notre relation aux autres, elle est enrichie. Parce que la relation à Dieu, la relation aux autres, ça ne va pas l'un sans l'autre. Le levain de l'Évangile fait grandir notre foi qui est un mouvement intime de notre cœur vers Dieu. Foi qui est confiance en Jésus-Christ et qui nous donne d'orienter toutes nos décisions, c'est-à-dire toutes nos décisions, vers plus d'amour. Est-ce que j'agis dans cette situation-là donnée vis-à-vis de cette personne-là avec lui? Donc selon la deuxième interprétation, le levain perçu comme une image de croissance spirituelle selon une dynamique divine qui habite le monde et préside à son unité. Mais j'ajouterai que le levain, s'il permet l'obtention d'un pain, le pain est nourriture à plusieurs niveaux. D'abord, nourriture corporelle, indispensable à la vie de notre corps. Nourriture que l'on va donner à l'autre. Et nourriture que l'on partage. Donc, indispensable comme à la relation avec l'autre. Et d'ailleurs, Jean nous dit que Jésus-Christ et pain de vie donné pour que nous vivions. Donc il y a aussi cette dimension de pain donné, c'est pas simplement nous qui allons nous approprier le pain. Alors, peut-être pourrons-nous témoigner même très modestement de ce qui nous fait vivre et pour nous devenir le vin pour que d'autres, en voyant l'amour que nous nous portons les uns aux autres, ils aient envie d'en connaître la source. Comment se fait-il qu'ils s'aiment tant? devenir tel un levain de paix, d'amour, de respect, de générosité, d'amitié, de pardon, de confiance, de douceur, de patience. Enfin, je pourrais étendre la liste à la fin. Et l'avènement du royaume, puisque c'est une parabole qui concerne le royaume de Dieu, s'inscrit dans l'histoire de Dieu avec l'humanité. Le royaume de Dieu est comme du levain caché dans notre pâte humaine, si tant est qu'on le laisse grandir, se développer et s'épanouir. Je vous rappelle que Luc a dit le règne de Dieu est au milieu de nous. Et nous prenons le cantique